Le grand rendez-vous de l'épargne. Une émission proposée par Capital et Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet et Julien Bouissou.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne. Chaque mois, vous le savez, nous décryptons ensemble l'économie avec nos invités, nos grands témoins, nos experts. Et pour présenter cette émission, je suis en compagnie de Julien Bouissou, chef de service argent et placement au magazine Capital. Bonjour Julien.
Bonjour Fabrice.
Comment ça va?
Ça va
pour
bien
cette rentrée.
Cette troisième saison.
C'est vrai, déjà, 20e numéro. Alors, qu'est-ce qui nous attend au sommaire de ce grand rendez-vous de l'épargne?
Eh bien, c'est un vaste sujet. On va s'intéresser aux frais qui pèsent sur l'épargne. Alors, on sait tous, les taux d'intérêt sont très bas aujourd'hui, ce qui rend les frais prélevés par les banques et les autres intermédiaires encore plus pénalisants sur ces performances. Donc, on va dire aujourd'hui, on va voir comment réduire ces frais, quel niveau de frais est acceptable sur son assurance vie, plan d'épargne retraite ou compte titre. Alors pour en parler aujourd'hui, on a un peu deux briseurs de frais, on va dire. On va vérifier ça.
Cost-killer.
Ouais, voilà. Thierry Renard, tout d'abord, bonjour. Vous êtes
bonjour.
Le cofondateur de Ritchie, qui est une fintech notamment qui commercialise un contrat d'assurance vie. On en parlera
tout à fait.
Avec des frais compétitifs. On rentrera un
fait.
Peu dans le détail.
Merci de m'accueillir.
C'est notre plaisir. Et avec nous aussi Mathias Baxino, qui est le directeur général France de Trade Republic, alors qui est un de ces néo-courtiers, enfin en tout cas courtier qui aussi casse les prix. On peut quasiment acheter gratuitement des actions avec vous. Enfin, nous en direz plus aussi. Bonjour Mathias.
Bonjour Julien, bonjour Fabrice, ravi de vous retrouver.
Voilà pour ce numéro qui va intéresser nombre de nos auditeurs, nos internautes évidemment. En dernière partie d'émission, votre rubrique préférée, ça vous concerne, les experts qui répondront à vos questions avec Thibaut Lamy. Voilà, donc c'est parti pour le grand rendez-vous de l'épargne, saison 3 spéciale frais, comment les baisser. À tout de suite.
Le grand rendez-vous de l'épargne, le grand témoin.
Et on invite, on accueille deux grands témoins pour parler justement de ces frais d'épargne. Alors l'épargne des Français, Julien, vous l'avez dit, c'est sur les contrats d'assurance vie, bien sûr, qui n'en a pas ou qui, pour ceux qui n'en ont pas, il faut peut-être en faire. Et puis il y a la bourse aussi, la bourse qui attire de plus en plus d'investisseurs, de plus en plus jeunes. Il y a des nouveaux modèles. Donc on va en parler, on commence avec l'assurance vous et avec vous Thierry Renard. Donc cette assurance vie que vous proposez, pourquoi elle est novatrice?
Alors, déjà un mot sur notre assurance vie. On l'a créée dans le cadre d'une fintech qui s'appelle Ritchie, qu'on a lancée en début d'année. Cette fintech Ritchie a pour mission de démocratiser le conseil patrimonial en fournissant un certain nombre d'outils digitaux à destination donc, de ses clients. Et dans le cadre donc, de ce projet Ritchie, on s'est rapproché d'un assureur, Generali en l'occurrence, pour bâtir, en partant un peu d'une feuille blanche, ce qui serait pour nous le contrat d'assurance vie idéal. Et parmi les différents critères qu'on a voulu étudier et sur lesquels aussi on a souhaité innover, la question des frais est une question effectivement qui est rapidement venue sur le sujet. Alors, en quoi le contrat est-il innovant par rapport à plusieurs aspects? D'abord, c'est un contrat dit « clean share ». Alors, ce terme n'est pas encore forcément très connu.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce qu'un contrat « clean share » ? Contrat clean share, c'est un contrat dont les supports, donc on va partir du principe qu'on a investi sur des supports actions ou obligations, aussi appelés unités de compte. Et on va, donc ces supports-là, ils sont clean, ils sont purs, ils sont nettoyés. Ils sont nettoyés de quoi? Des rétrocessions de commissions aux intermédiaires. Ce qui, en soi, peut paraître anecdotique, mais ce qui, dans la réalité, ne l'est pas, puisque les études montrent, et les barèmes aussi des assureurs permettent de facilement le vérifier, que un fonds clean share a en gros 1% de frais en moins qu'un fonds non clean share. C'est-à-dire que sur la durée, ça peut représenter une capitalisation, du moins une économie considérable pour l'investisseur.
Parce que l'économie de ce secteur, justement, c'est ça. Hein, on a à peu près sur un fonds action deux points de frais de gestion hein, par an. Et sur ces deux points, en moyenne, il y a un qui revient donc soit au courtier qui distribue le contrat, soit même à l'assureur. Hein, c'est des sociétés
de
gestion.
Après, il y a un partage qui peut être fait. Mais grosso modo, dans la structure des frais d'un contrat, vous avez grosso modo les frais de gestion du contrat. Donc ceux-là, OK, ils sont connus, ils sont lisibles, du moins. Ensuite, vous avez les frais liés au support, et ceux-là, ils ne sont pas lisibles.
D'accord. Et alors, petite question évidemment qu'on se pose, c'est du coup comment vous allez gagner de l'argent si il y a plus de ces frais qui sont votre marge aussi.
Alors, c'est une bonne question. Nous, en fait, si vous voulez, on a structuré toute l'équilibre financier, si vous voulez, de notre solution, en limitant en fait le montant des frais uniquement dans le montant des frais de gestion. C'est-à-dire qu'en partant du principe qu'effectivement, on est sur un contrat clean share, donc on n'aura pas de rétrocession sur les supports. On aura juste une partie des frais de gestion qui reviendra à l'assureur et une autre partie qui reviendra à Ritchie. Voilà, donc comme ça, c'est très clair. Donc, ce qui permet, et je pense que ça sera véritablement une tendance nouvelle sur le marché. Aujourd'hui, on est très précurseur. Je pense qu'on est, on est les premiers à véritablement lancer un produit grand public clean share, accessible dès 500 euros. Dans les années à venir, je suis prêt à prendre le pari avec vous que de nombre de contrats vont aller dans cette tendance-là.
Donc on baisserait encore d'un cran les frais, parce que les contrats Internet, on le sait, ils ont supprimé les frais d'entrée. Hein. On met 100, c'est 100 qui fructifie. Donc vous, il n'y aurait que les frais de gestion de l'enveloppe. Ils ne sont pas plus élevés, parce qu'il faut bien vous rattraper à un moment.
Non, justement, on a fait des comparatifs. Nous, aujourd'hui, on a en tout cumulé l'ensemble des frais de gestion possibles sur le contrat, qui inclut, alors je ne l'avais pas signalé, mais qui inclut une gestion pilotée. Donc, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui véritablement pilote vos portefeuilles. Et ça, ce type de mandat de gestion, ça a un coût aussi, hein, lorsque vous les souscrivez à travers des compagnies de l'assurance. Au total, on est à 1,54%.
D'accord.
Ce qui fait de nous le contrat le moins cher du marché.
Pour la gestion pilotée.
Tout compris.
Avec trois profils,
y compris gestion pilotée.
Avec trois profils, donc chez Ritchie, hein, toujours pareil. Profil prudent, alors il y a des petits noms. Hein, c'est Hugo, le profil prudent. Exactement. Il cherche la sécurité. Pour lui, l'épargne doit capitaliser tranquillement. Il y a Louise, qui est profil équilibré. Louise recherche la performance modérée. Elle limite son risque de perte. Et Max, profil dynamique. Il vise une performance maximale de son investissement, quitte à subir des pertes. Donc, on voit aussi ce côté un peu ludique, gestion pilotée.
Pédagogue.
Voilà. Voilà pour cette rapide présentation de Ritchie, ça c'est pour l'assurance vie. Mathias Bacchino, on va s'intéresser avec vous maintenant à comment réduire ces frais de courtage sur ces ordres de bourse. On sait que les néo-investisseurs se comptent en dizaines, voire centaines de milliers depuis un an et la crise sanitaire. Vous en bénéficiez aujourd'hui de cet engouement retrouvé pour la bourse?
Alors, la question, c'est pas tellement... Enfin, c'est un enjeu majeur de réduire les coûts des ordres de bourse. Puisque aujourd'hui, vous avez à peu près 70% des Français qui sont insatisfaits des frais prélevés par leur banque, et à peu près 70% également qui considèrent qu'investir dans des actions, c'est trop cher. Donc il y a un constat massif. C'est lié à l'absence de transparence des établissements bancaires et de courtage traditionnels sur ce simple service qui est celui de l'exécution d'ordres de bourse, sur lequel des frais sont facturés historiquement en pourcentage, ce qui ne fait aucun sens puisque les coûts supportés par les opérateurs sont des coûts fixes. Donc voilà, que ça coûte plus cher de faire bouger
des gros ordres,
10 containers ou un container, on le comprend, parce que c'est du matériel, donc il y a des coûts additionnels. C'est un ordre de bourse, c'est une ligne informatique aujourd'hui.
Alors, ça fait longtemps qu'il y a des courtiers, notamment aux États-Unis, qui proposent même des courtages à zéro. C'est un peu aussi votre proposition. Enfin, c'est 1 euro l'ordre, donc c'est très peu cher. Et même, on peut tomber à zéro. Vous allez nous expliquer comment.
Alors, 1 euro l'ordre, c'est pas très peu cher pour un ordre de bourse. 1 euro l'ordre, c'est le juste prix pour ce service. C'est pas nous qui sommes très peu cher.
Vous allez agacer tous ceux qui payent 10, 15 euros.
C'est pas 15 euros. L'AMF le dit, hein, c'est jusqu'à 52 euros. Dans une banque, pour un ordre de 10 000 euros. Pour un ordre de 1 000 euros, ça varie de 1 euro chez nous, par exemple, chez Trade Republic, à 8 euros dans une banque traditionnelle. Donc, ce n'est pas nous qui sommes des cost killers ou des low cost. On est juste structurés pour être capables d'être profitables tout en fournissant un service qui est un service de qualité, un service normal. Ceux qui sont gratuits pour l'exécution d'ordres de bourse, ça, il y a en général un vrai sujet derrière. Parce que quand c'est gratuit, en général, c'est toi le produit. Donc en fait, les intermédiaires qui proposent du trading totalement gratuit, de l'investissement en actions totalement gratuit, se rémunèrent en règle générale sur la fourchette de cotation, ce qu'on appelle le spread. C'est-à-dire le prix auquel vous achetez. Vous ne payez pas de frais de courtage pour acheter une action, mais vous achetez l'action plus cher, puisque ouais. vous aurez pu la payer sur le marché
compte,
réglementé.
On a qu'un prix finalement, une fourchette achat-vente, et on va pas voir sur le site Euronext en temps réel, voir si on a le bon prix. Alors on comprend bien, du coup cette proposition que vous faites, Trade Republic est un courtier allemand, un néo-courtier qui vient de démarrer, mais vous avez vraiment un succès fulgurant, c'est-à-dire que c'est une appli uniquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de site internet, on fait tout via son smartphone. Et comment expliquer cet engouement extraordinaire ?
Écoutez, c'est assez simple. Trade Republic, ça s'est lancé en Allemagne en début 2019. Et au mois de mai dernier, nous avons annoncé avoir franchi le cap du 1 million de clients, donc actifs, avec plus de 6 milliards d'euros d'encours. Donc en 2 ans en Allemagne, nous sommes lancés en France en début d'année, nous affichons un objectif de 100 000 clients au bout d'un an. Donc je donne rendez-vous à la fin du mois de janvier 2022 pour en reparler.
Ouais. Bon, vous êtes dans les clous pour l'instant.
Et on a surtout effectué une levée de fonds en série C de 900 millions de dollars auprès d'investisseurs de la tech aux États-Unis et en Europe, qui nous permet aujourd'hui d'envisager notre développement de manière très grand public. Gros point de succès, ouais. c'est l'élément de différenciation majeur de Trade Republic, c'est du bon sens, c'est ce qu'on appelle les plans d'investissement voilà. programmés.
C'est là où on peut avoir la gratuité, notamment.
Exactement.
C'est si on accepte de verser régulièrement un abonnement, on fait son panier d'actions hein, comme on veut, on verse à date fixe, et vous regroupez tous ces ordres-là, ce qui vous permet de promettre la gratuité au client final.
C'est exactement. Donc on ne peut pas parler totalement de gratuité, parce que entre autres, quand on investit sur un ETF, on a 0,2% en moyenne de frais de gestion. Mmh. Un ETF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un panier d'actions thématique ou sectoriel, géographique.
Ça peut être le CAC 40.
Ça peut être le CAC 40, ça peut être le S&P 500. Pour ceux qui veulent diversifier au maximum, il y a des indices qui regroupent des actions du monde entier, de tous les secteurs, avec des filtres pour ceux qui le souhaitent, plutôt écologiques, plutôt socialement responsables. Voilà. Donc il y a tout un univers d'investissement, de conviction qui est possible. Et les plans d'investissement programmés chez Trade Republic, c'est très simple. C'est à partir de 10 euros, tous les mois, tous les 15 jours ou tous les trimestres, vous pouvez effectuer un versement, exactement comme beaucoup de Français, sans doute trop, le font sur un livret A ou sur un fonds en euros, dans un contrat d'assurance vie, ou malheureusement pour beaucoup sur leur compte courant. Eh bien, on peut verser sur des actions un montant fixe tous les mois. Et effectivement, puisque nous regroupons les ordres, eh bien, le 1 euro de frais de courtage pour ces ordres-là, passé par un plan d'investissement programmé, est offert. Si on revend son plan d'investissement programmé, ce qu'on peut faire quand on le souhaite, eh bien, là, on paye 1 euro de frais de courtage parce qu'il s'agit d'un ordre ponctuel.
Très bien, bon, c'est très clair. Donc, on le voit, Julien, des solutions existent pour réduire ces frais sur l'assurance vie, sur les ordres passés en bourse. Et puis, est-ce qu'on peut également parler du nouveau plan d'épargne retraite, produit qui a bientôt 2 ans et qui cartonne également. Vous êtes allé en reportage.
Voilà, on a été voir Monsieur Laurent Trichet, qui est le fondateur de Sémaphore Conseil, qui est un cabinet de conseil bancaire, et qui a épluché toutes les plaquettes tarifaires des principaux PER du marché, les PER individuels, et il nous donne effectivement le résultat de ces frais passés au crible.
Tout de suite, la séquence reportage.
Le grand rendez-vous de l'épargne, le reportage.
Quels sont les principaux frais à surveiller quand on souscrit un plan d'épargne retraite, et à quel montant faut-il s'attendre ?
Alors, avant de vous présenter l'ensemble des frais qui peuvent être facturés dans le cadre d'un PER, il m'apparaît important de vous préciser 2 choses. La première, c'est que tous ces frais que nous avons analysés dans le cadre du rapport qui a été réalisé par Mme Corinne Dremer, présidente du CCSF, tous ces frais sont exclusivement liés au PER individuel, donc n'ont pas du tout été analysés, tous les frais liés au PER collectif. Deuxième chose, nous avons réalisé cette étude sur la base de 34 contrats qui ont été choisis de manière à ce que l'ensemble des distributeurs présents sur le marché puissent être représentés au sein de ce panel. Au niveau des frais, donc, je dirais qu'il y en a 3 grandes catégories. Tout d'abord, une première catégorie qui sont liées au versement. Donc là, on a tout d'abord les frais sur le versement initial lorsque vous ouvrez effectivement votre PER. Et là, ces frais sont en moyenne sur ces 34 contrats de 3,18%. Deuxième grande catégorie de frais, donc frais liés à la gestion du plan. Et là, on retrouve deux sous-catégories, si je puis dire. Donc tout d'abord, les frais de gestion du support en euros. OK, Support en euros qui est présenté à des épargnants qui souhaitent avoir beaucoup de sécurité. Et là, en moyenne, sur les 34 contrats, ces frais sont de 0,87% l'an. Et deuxième sous-catégorie, donc des frais de gestion des supports en unité de compte. Donc là, il est possible pour l'épargnant d'investir ou des sommes sur un certain nombre d'unités de compte. Et là, en moyenne, ils sont de 0,85% l'an sur les 34 contrats que nous avons analysés.
En quoi consiste la pratique de rétrocession de frais ?
Alors, avant de vous parler des rétrocessions, je vais vous parler de la troisième catégorie de frais que j'avais mentionné un petit peu avant, à savoir des frais qui sont perçus par les sociétés de gestion qui gèrent les supports en unité de compte. Et alors, il y a une grande diversité de supports en unité de compte. Il avait été décidé d'analyser que les unités de compte en actions et en obligations. Et sur les 34 contrats analysés, on a déterminé donc un taux moyen de frais de gestion de 1,90% me semble-t-il pour les actions et 1,10% sur les obligations. Voilà. Une fois ces frais perçus, la société de gestion, elle, va rétrocéder une partie de ces frais au distributeur et à l'assureur. Et ce qu'on a constaté toujours sur ces supports en unité de compte actions et obligations, une rétrocession d'environ 45 à 46% de ces frais.
Face à l'empilement de frais sur ce type de produit, l'épargnant peut-il en négocier certains ?
Oui, tout à fait. L'épargnant peut tout d'abord négocier les frais qui sont liés au versement. Donc, on en avait parlé tout à l'heure, les frais sur versement initiaux, ainsi que les frais de sur versement réguliers. Okay. En sachant que, bien sûr, si le client décide de souscrire à un PER par le biais d'un CGP ou d'un courtier, CGP, conseiller en gestion de patrimoine, pardon, là, il y a des fortes chances qu'il puisse bénéficier de conditions préférentielles que cet intermédiaire aura négociées auprès de l'assureur et de la société de gestion. Donc ça, ces frais peuvent être négociés. Les frais d'arbitrage peuvent l'être également, tout comme sur l'assurance vie, qui présente beaucoup de similitudes en termes de frais avec le PER, c'est qu'on constate aussi que des établissements peuvent faire des opérations promotionnelles sur ce type de produit en proposant sur des périodes bien délimitées X% de réduction sur les frais sur versement régulier ou versement ponctuel ou voire des versements initiaux.
Est-ce que certains types de promoteurs de ces plans d'épargne retraite sont moins chers que d'autres ?
Je pense qu'on peut dire que les courtiers en ligne sont assez agressifs en matière tarifaire sur ce produit-là. Ceci s'expliquant essentiellement par le fait qu'ils n'ont pas à subir les charges liées à un réseau de distribution. Ceci étant dit, sur les autres catégories de frais et par rapport à tout ce qui a été réalisé par les analyses de Sémaphore Conseil, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de catégorie d'établissement ou d'établissement qui arrive toujours en tête en matière des frais. Donc ma réponse serait non, on ne peut pas, généraliser à ce niveau-là de manière à mettre en valeur une éventuelle catégorie d'opérateurs qui serait mieux positionnée.
Laurent Trichet, fondateur du cabinet spécialisé sur la banque Sémaphore Conseil. On est toujours en compagnie de nos deux grands témoins, Thierry Renard, le cofondateur de Ricci pour un contrat d'assurance vie nouvelle génération, CleanShare, Mathias Bacino, directeur général pour la France de Trade Republic. Le courtier, on l'a vu, à frais. Alors vous insistez, c'est pas du low cost, c'est les autres qui sont chers.
À nouveau, on n'est pas en train de casser les prix au point de mettre en danger notre profitabilité ou notre capacité à nous développer ou à investir. Et surtout, notre capacité à servir nos clients de manière professionnelle avec une licence de banque de courtage en Allemagne. Ce qu'on dit, c'est que les autres acteurs sont sur des structures d'entreprise et des modes de fonctionnement, des process, des outils informatiques qui ne leur permettent pas de faire payer aux gens le juste prix du service. Juste prix d'un ordre de bourse, alors, c'est 1 euro de frais fixes.
On vous croit sur parole, sinon il n'y aurait pas eu ces investissements massifs, hein, 900 millions de dollars pour la dernière levée. Julien.
Alors on va revenir un peu sur ce concept de fonds CleanShare. Quand je vais bénéficier de ces fonds CleanShare, est-ce que je peux estimer que je vais bénéficier d'un meilleur conseil ? Parce qu'effectivement avant, s'il y avait des rétrocessions peut-être plus élevées sur certains fonds, moins élevé sur d'autres. Le vendeur de contrat avait peut-être tendance à me conseiller les premiers fonds les plus généreux en frais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan sur le conseil ?
C'est vrai que c'est une question de l'intégrité, entre guillemets, du conseil. C'est une question qui a pu se poser pendant longtemps. Alors, bien évidemment, il y a des gens dans nos métiers qui font correctement leur métier, qui sont intègres, et donc je ne veux pas du tout jeter l'opprobre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la réponse CleanShare permet d'apporter une solution supplémentaire sur cette transparence des frais. Voilà. Ensuite, il faut quand même qu'il y ait un pilote dans l'avion. Nous, chez Ritchie, on a toujours considéré que donner une liste de 300 fonds à un client investisseur sur Internet, en plus, et puis lui dire vous allez faire votre allocation d'actifs, débrouillez-vous, ça n'a pas de sens. Mm-hmm. Ça n'a véritablement pas de sens. Donc aujourd'hui, notre réponse à nous, c'est la gestion pilotée, d'ailleurs qu'on préconise et qu'on impose, entre guillemets, dans notre parcours. Alors, un client peut toujours déroger, mais véritablement, nous, c'est notre conviction aujourd'hui, c'est qu'il faut un pilote dans l'avion. Donc, on a une société qui s'appelle Active Asset Allocation, qui pilote nos trois profils, nos trois portefeuilles. C'est une société qui est indépendante, qui n'a pas ses propres fonds. C'est ce qui a aussi milité pour les sélectionner. Parce que l'intégrité est un vrai sujet pour nous.
Mmh. Parce que souvent, dans des mandats de gestion, on peut retrouver grosse part de fonds maison, la même maison que ceux qui pilotent le portefeuille.
C'est toujours le même problème. Est-ce que le conseiller peut être orienté à choisir tel ou tel fonds parce que sa rémunération est variable ? Une société de gestion qui a un mandat de gestion peut être incitée à choisir ses propres fonds pour les raisons qu'on imagine. Voilà, le conflit d'intérêts, potentiellement, il peut exister sur l'architecture du placement aujourd'hui. Nous, la réponse qu'on a avec les CleanShare et un tiers qui pilote le contrat, c'est justement d'écarter tout conflit d'intérêts.
Alors, petite question complémentaire. Donc, pour faire ce modèle, il faut avoir les fonds CleanShare. Est-ce qu'aujourd'hui, l'univers des fonds CleanShare est suffisant ? Enfin, on peut avoir vraiment tous les types de fonds, toutes les stratégies qu'on veut ?
Alors, dans notre sélection de fonds, nous, on a sélectionné à la fois des fonds dits ETF, pour y revenir un petit peu après, et des fonds de type OPC qui, eux, alors, ont effectivement son départ CleanShare, c'est-à-dire que beaucoup de vos téléspectateurs ont probablement un contrat d'assurance vie avec, par exemple, des actions européennes. Mmh. Ce même fonds-là, il existe dans une part dit CleanShare. Souvent, c'est la part institutionnelle,
oui,
d'ailleurs.
Oui, c'est ça, ça revient à la part institutionnelle.
Grosso modo. Donc, c'est la part lavée de toutes les rétrocessions. Voilà. Donc, c'est cette
c'est possible,
part-là.
Quasiment, on peut avoir du Carmignac, pour reprendre l'ancienne star, Carmignac CleanShare. Ça existe ?
Alors, il y en a de plus en plus. C'est vrai que si on s'était rencontré il y a 2 ans, je vous aurais dit que c'est un sujet qui était vraiment compliqué. Aujourd'hui, il y a une vraie tendance au sein des sociétés de gestion pour créer les parts CleanShare, parce qu'il y a une demande. Ça y est, je pense qu'on est au début d'une nouvelle ère. Je voulais ajouter un autre point, c'est qu'en dehors de ce prisme CleanShare de notre contrat, nous, on a rajouté un autre prisme qui est le prisme de la finance verte et de la finance à impact, ce qui est encore resserrer notre univers.
Alors attention là, parce qu'on va quand même perdre des gens. Déjà qu'on parle de CleanShare, c'est pas vraiment tout à fait franco-français. CleanShare, on a compris. Donc on rappelle, donc ce sont ces parts de fonds sans rétrocession, donc ils vont distribuer sans capital ou sans frais ajoutés. Mais là, on ajoute une couche supplémentaire, c'est qu'en plus, on peut, et on sait que c'est la tendance des Français qui veulent faire du sens pour leur épargne, investir dans les fonds, donc ISR.
C'est ça. Alors aujourd'hui, lorsque des gens souhaitent placer de leur argent, mais en se disant « moi, j'ai envie de finalement de maîtriser un peu l'univers dans lequel je vais investir », il y a des choses qui me parlent et puis d'autres choses qui ne me parlent pas. Et je veux être maître de mon investissement par rapport à mes convictions, mon éthique, etc. Ça, c'est une vraie tendance aujourd'hui. Alors, on peut résumer ça dans la finance verte ou la finance à impact. J'aime bien ce terme-là de finance à impact. Alors, pour ce faire, les sociétés de gestion ont labellisé leur support, en fait. Alors, il y a différents labels aujourd'hui. Je pense que là aussi, on est au début d'une nouvelle ère, donc tout ça est en train de se mettre en place. Je pense qu'on y verra un peu plus clair à l'avenir, avec un peu moins peut-être de labels et des choses un peu plus...
ça se met en place.
Un peu moins marketing, comme ça a pu l'être au début, et vraiment beaucoup plus clair du point de vue de l'investisseur. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que chez Ritchie, c'est une véritable conviction. Ce qu'on note, on en parlait avant l'émission, ce qu'on note aujourd'hui sur toutes les plateformes, c'est qu'on a une vraie demande pour investir de manière éthique. Et chez Ritchie, nos portefeuilles sont investis entre 55 et 85% sur des fonds labellisés.
On va peut-être voir du côté de M. Bacino. Alors, est-ce qu'il y a cette aussi, comment on fait chez vous si on veut verdir son portefeuille, le faire de façon éthique? C'est au choix de l'épargnant.
Alors oui, nous sommes la Trade République, donc avec des citoyens investisseurs. Et donc chacun est libre de ses investissements. Et il se trouve qu'aujourd'hui, quand vous avez la moitié de vos clients qui ont moins de 30 ans, les jeunes aujourd'hui ont des convictions. Ils se forment, ils ne sont pas seuls derrière leur ordinateur, collectivement, comme une sorte de blockchain intellectuelle, ils échangent et on observe, nous, un mouvement très naturel et très puissant en faveur des actions des entreprises qui soutiennent la croissance écologique et de manière plus diversifiée sur les ETF. Donc les ETF sont des paniers d'actions qui ont à peu près 10 fois moins de frais que les fonds de gestion traditionnels. Et un ETF, aujourd'hui, le deuxième ETF le plus utilisé en plan d'investissement programmé, donc en investissement régulier par les clients de Trade Republic en Europe, c'est un ETF sur les énergies renouvelables.
D'accord. Et c'est pour ça, de la confusion clean shares, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça rejoint ce que vous dites. J'ai une question concernant, alors on parle ETF, on parle investissement, justement c'est cette population, la moitié en moins de 30 ans, et les jeunes, on le sait, ils sont intéressés par un nouveau type d'actif qui fait un peu peur, c'est les crypto-monnaies. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez proposer sur la plateforme Trade Republic?
Alors, effectivement, nous proposons des crypto-monnaies. Nous mettons à disposition de nos clients 4 crypto-monnaies en Allemagne pour l'instant. Ils sont le Bitcoin Cash, le Litecoin et l'Ethereum, donc les principales crypto-monnaies.
Ça va arriver en France?
Oui, tout à fait. Nous sommes en train de préparer le déploiement de cette offre dans les autres pays européens dans lesquels nous opérons et dans lesquels nous opérerons dans les mois qui viennent. Les crypto-monnaies, avant tout, il y a une demande qui est évidente. Donc, s'il y a une demande, autant
l'adresser.
L'adresser et puis surtout fournir un service de qualité. C'est-à-dire que les crypto-monnaies aujourd'hui, dans les plateformes d'exécution d'ordre de crypto-monnaies, vous trouvez tout et n'importe quoi. Trade Republic, à nouveau, c'est un acteur régulé. Donc...
Alors, je vous pose la question parce qu'on sait très bien que sur cette crypto-monnaie, je vous laisse finir après, il y a une grande volatilité. Et justement, je trouve que le plan du coup, si on met un petit ticket tous les mois sans s'en rendre compte, ça lisse finalement cette volatilité qui, on le sait, est assez extrême sur les cryptos.
On a deux logiques, nous, chez Trade Republic. C'est la diversification et le caractère progressif. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier et on ne les met pas tous au même moment. Donc effectivement, la crypto-monnaie peut être perçue comme un outil de diversification du risque de son portefeuille. C'est très net, c'est une nouvelle classe d'actifs pour la diversification. Et avec le plan d'investissement programmé qui est disponible pour les crypto-monnaies, eh bien effectivement là, on réduit considérablement le risque de son portefeuille. De manière générale, un portefeuille dans lequel on investit tout en une fois et un portefeuille dans lequel on investit un petit peu tous les mois, c'est 3 fois plus risqué. C'est pas nous qui le disons, ce sont des économistes.
C'est du long terme.
3 fois plus risqué. Et le rendement, quand on investit à 20 ans en plan d'investissement programmé, est 2 fois supérieur.
Ouais, après, bon, il faut éviter les grands accidents qu'on a connus 2001, 2007,
Même avec cela, sur les 120 dernières
on
années...
On vous fait confiance. J'ai une deuxième 5%. Question, mais tout aussi importante, mais très importante pour nous, les Français. Vous le savez bien, c'est là où le bas blesse dans ces néo-courtiers. C'est notre fameux PEA, qui est incroyable de difficultés pour cette fiscalité qu'il faut reprendre, qui a changé au fil des ans. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir bientôt proposer un PEA aux Français sur Trade Republic?
Alors, nous le disons depuis notre arrivée en France, notre volonté clairement affichée, notre priorité d'ailleurs, j'étais d'ailleurs encore hier à Berlin pour en parler avec les équipes là-bas, c'est de proposer un PEA, puisque des plans d'investissement programmés dans des ETF, dans un PEA, c'est probablement l'un des meilleurs produits d'épargne possible, tant en termes de rendement que de fiscalité que de frais.
Bien sûr.
Donc, oui, Trade Republic va proposer un PEA en France. Le projet est avancé. Nous avons indiqué que nous souhaitions le lancer dans la première année de notre exercice en France.
Et dès que vous avez 100 000 clients.
C'est également notre objectif pour notre première année d'exercice en France. Et effectivement, ce sera peut-être un produit qui nous permettra d'accélérer encore un peu plus.
Sur un modèle de frais, ce qu'on disait, identique à un compte-titre. C'est-à-dire que PEA... Souvent, ce que disent les banques traditionnelles, disent que le PEA, c'est cher parce qu'il faut faire le relevé fiscal, etc., etc. Garder toute l'historique du compte. Vous allez pouvoir faire la même promesse tarifaire, y compris sur le PEA.
Oui. D'accord. La grille tarifaire de Trade Republic fait une ligne. Un ordre de bourse, ça coûte 1 euro.
C'est simple et efficace. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a tous les outils en main, que ce soit avec Thierry Renard, le cofondateur de Ritchie, et avec Mathias Bacino, directeur général pour la France de Trade Republic. Tous les armes en main pour faire baisser ses frais durablement sur des plateformes en plus performantes. Je vous invite vraiment à les découvrir. Un grand merci, messieurs, pour nous avoir fait découvrir ces nouvelles solutions. Merci à vous, Julien Bouissou. On retrouvera bien sûr les articles dans Capital. Le grand rendez-vous de l'épargne, ça continue. Tout de suite, la rubrique « Ça vous concerne ».
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
C'est une de vos rubriques préférées, ça vous concerne, les questions des internautes, les réponses de nos experts. Et pour présenter cette rubrique, je suis en compagnie de Thibault Lamy. Bonjour Thibault.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes journaliste rubrique placement chez Capital. On accueille notre expert, notre première experte chez Charlotte Tamer. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Directrice conseil chez Yomoni. Thibault, nous avons une question de Charles pour Charlotte.
Oui, Charles, alors c'est un lecteur de Capital qui veut ouvrir un plan d'épargne retraite, donc le fameux PER. Alors, il aimerait, avant de souscrire, connaître un peu les différences entre les deux grands types de PER, donc c'est-à-dire assurantiel d'un côté et compte-titres de l'autre.
Ok, alors pour répondre à Charles, c'est vrai qu'une des grandes nouveautés du nouveau plan d'épargne retraite, c'est la possibilité offerte par la loi que le dispositif prenne la forme sous-jacente, en fait, soit d'un compte-titre, donc qui est une enveloppe bancaire, donc détenue auprès d'un établissement bancaire, soit d'une assurance-vie, donc une enveloppe assurantielle détenue auprès d'un assureur. On le note juste ici, précédemment, tout ce qui était plan d'épargne retraite populaire, PERP, Madelin, était forcément détenu auprès d'un teneur de compte qui était l'assurance. Pour être assez clair, les banques ne se sont pas ruées sur l'opportunité d'ouvrir leur propre PER et avec la gestion qui est à l'intérieur. Mais en termes de fonctionnement, c'est-à-dire la possibilité de déduire ses investissements d'un point de vue fiscal, le fait que le capital soit globalement bloqué jusqu'à la retraite et la possibilité de sortir soit en rente, soit en capital, reste à peu près identique entre les deux enveloppes. Donc je dirais que a priori comme ça, la différence, elle n'est pas forcément très évidente. Pour autant, ce point, il est à nuancer par deux aspects. Le premier aspect, c'est de se dire qu'en fait, les enveloppes bancaires, traditionnellement, sont moins chères en termes de frais de tenue de compte. Alors, je dis frais de tenue de compte, mais tout le monde les appelle frais de gestion. On a un petit problème de nomenclature quand même sur le marché, sur l'appellation des frais. Les frais de tenue de compte, c'est les frais qui reviennent à la personne qui assure le rôle de coffre-fort des capitaux. Et en fait, sur le marché, on se rend compte que les acteurs les moins chers, hein, en termes de PER assurantiel, proposent des frais de gestion à 0,6% par an, ce qui n'est pas excessif hein, pour une enveloppe assurantielle. Sur le compte-titre, sur les peu de dispositifs PER de compte-titre qui existent aujourd'hui, il y en a deux, les frais maximum sont de 0,3%. On passe quand même du simple au double. Sur une capitalisation qui normalement est envisagée au moins sur 8 ans, 10 ans, 15 ans et plus, le différentiel peut être colossal. La deuxième nuance qu'on apporte aussi, c'est qu'on se rend compte que lorsqu'on veut sortir en capital de son PER au moment de la retraite, les enveloppes assurantielles proposent des conditions un peu plus restrictives sur le fractionnement de la sortie en capital. C'est-à-dire que vous ne sortez pas votre capital. Alors, vous pouvez le sortir en une fois, ça leur pose pas problème. Mais normalement, enfin, l'investisseur envisage de sortir quand il en a besoin, par exemple. On se rend compte que les assureurs vont fractionner soit dans le temps, sur une dizaine de durées d'année. C'est-à-dire que vous avez 10 ans pour sortir votre capital retraite du dispositif, soit sur un nombre de rachats qui peut être limité, je sais pas, à 10 rachats sur la durée de votre retraite. Ce qui va vous inciter, en fait, à sortir des plus grosses sommes d'un coup, donc avec un prorata de plus-value plus important, et donc faire augmenter la fiscalité au moment où vous sortez. D'accord ? Donc je sais que ce n'est pas des choses très, très faciles de prime abord à aborder, mais il ne faut pas se fier juste en fait à la théorie. Voilà, il faut toujours essayer d'aller chercher un petit peu plus loin.
Donc à contrario, les PER bancaires permettent de sortir de manière plus fractionnée ?
En tout cas, les PER bancaires qui existent aujourd'hui, la seule contrainte qui existe sur une sortie en capital, c'est que le rachat partiel, un rachat partiel au moment de la retraite, doit être au minimum de 500 euros. En gros, c'est pas un compte courant, mais bon, a priori, ça, l'investisseur le sait. Mais c'est illimité en termes de fractionnement et en termes de durée dans le temps, ce qui peut être un avantage pour l'épargnant.
Il y a peut-être un point aussi qu'on n'a pas abordé, c'est côté transmission.
Bien sûr, j'allais y venir. Ouais. Tout à fait. Alors, dans le PER assurantiel, vous êtes sur une assurance-vie. Et donc, si vous décédez pendant la durée de vie de votre contrat ou lors de la phase de distribution, si vous avez pris l'option de sortie en capital, D'accord, attention, ça ne marche pas avec la rente. Eh bien, en fait, si vous décédez pendant la phase de capitalisation, pendant la phase de sortie en capital, eh bien, en fait, vous bénéficiez de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie de 152 500 euros. Alors que lorsque vous êtes sur un PER compte-titre, en fait, le capital n'est pas à fond perdu. Hein, c'est juste que ça tombe dans la masse successorale selon les droits de succession en vigueur par rapport à la dévolution successorale de l'investisseur. Ça aussi, on le remet un petit peu en question aujourd'hui parce que la destination première d'un PER, c'est pas d'être transmis. Le fait de décéder pendant la phase de constitution est quand même, alors généralement, c'est un peu l'exception. Ça arrive, hein, on le sait que ça arrive, mais je pense que le pourcentage est quand même relativement faible par rapport à la phase de distribution. Il faut savoir que cette clause bénéficiaire, elle n'est pas en plus des autres assurances-vie que Charles pourrait détenir par ailleurs. C'est-à-dire que si Charles, par ailleurs, il a déjà des assurances-vie dans son patrimoine et il est déjà au taquet des 152 500 euros, eh ben en fait, ça va rentrer dans une taxation à 20%. D'accord ? C'est le global qui va compter. Le PER n'est pas un nouveau type d'espèce d'assurance-vie qui renouvellerait la clause bénéficiaire. Donc, après, à se demander, en fonction du patrimoine de Charles, est-ce qu'il a déjà de l'assurance-vie ? Est-ce qu'il a déjà des questionnements au niveau de la transmission ? Et est-ce que ça vaut le coup de cumuler encore sur de l'assurantiel ou plutôt de partir sur du compte-titres. Le dernier point qui me paraît aussi important de noter pour finir, c'est que du fait de la différence du sous-jacent, on n'est pas sur les mêmes garanties en cas de faillite du teneur de compte. On en parle beaucoup, c'est un sujet qui nous a plus trop quittés depuis 2008. Sur le PER assurantiel, vous avez une garantie de 70 000 euros par assuré, par assureur. Donc ça va, le PER étant assurantiel, il va rentrer dans la garantie des 70 000 euros. Sur un compte-titre, vous avez une garantie bancaire qui est de l'ordre de 100 000 euros. Voilà. Donc c'est un élément, il n'y en a pas forcément un mieux que l'autre. Je dirais qu'avant de penser à toutes les conditions fiscales avantageuses qu'a priori offre le PER assurantiel, je pense qu'il faut avant tout penser rendement. C'est-à-dire que vous êtes sur un placement financier. Le but, c'est de faire fructifier un capital pour pouvoir en vivre à sa retraite. Et donc, pour moi, il faut placer la rentabilité avant la fiscalité.
Charlotte, on récapitule. Frais de tenue de compte, frais de succession, garantie en cas de faillite du teneur de compte. Voilà quelques points auxquels il faut être attentif dans ce choix entre pair bancaire compte-titre ou pair assurantiel. C'était très clair. Charlotte Hammer, merci. Je rappelle que vous êtes directrice conseil chez Iomoni. Tout de suite, un prochain expert.
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
Une deuxième question tout de suite pour un deuxième expert. On accueille Stéphane Absolu. Bonjour Stéphane.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes directeur associé chez Pixis Conseil et Thibaut a une question de Sarah pour vous.
Oui, Sarah qui est propriétaire d'un appartement, elle aimerait le mettre à disposition de son enfant, mais elle se demande si ça peut avoir des conséquences, notamment ce prêt peut être qualifié de donation par le fisc.
Alors, il y a effectivement des conséquences. Maintenant, après, ce qu'il faut déjà se dire, c'est que Sarah a deux options. Soit elle décide de louer son bien à son enfant, donc il faut régulariser un bail, je veux dire, classique, comme si on le louait à un tiers. Alors, le point vigilant, c'est qu'il faut fixer un loyer, bien évidemment, et que ce loyer doit être un loyer de marché. Donc, il ne s'agit pas de se dire, c'est mon fils, je vais essayer de faire un loyer un peu minoré. Il faut vraiment qu'on soit sur la base d'un loyer de marché. Et puis, la conséquence de la perception de ce loyer, c'est que on pourra déduire les charges qui sont relatives à cet appartement et qu'on aura une fiscalité qui va s'appliquer, qui sera la fiscalité revenu foncier si l'appartement est nu ou bénéfice industriel et commercial si jamais le logement est loué meublé. Face à tout cela, il faut aussi mettre en parallèle le fait que si c'est une mère, donc Sarah, qui loue à son enfant, l'enfant ne peut pas bénéficier des aides au logement. C'est le cas particulier de la mise à disposition d'un logement dans le cadre de la famille. Donc ça, c'est le premier volet, je dirais, location de l'appartement à son fils. Après, la deuxième solution, c'est une mise à disposition à titre gratuit. Donc là, chez Pixis, on a l'habitude de conseiller aux clients de régulariser quand même un document pour justement mettre par écrit cette mise à disposition à titre gratuit. Parce que ce qui peut se passer, notamment au moment de la succession, c'est qu'on ait un enfant qui lève la main et qui vient de dire « moi j'ai été désavantagé, mon frère ou ma sœur a eu un avantage pendant un certain nombre d'années et je demande une requalification en termes de donation, donc de libéralité ». Ce qui peut poser des problèmes au moment de la succession. De la même manière, d'ailleurs, il faut savoir que si l'enfant, par exemple, a déjà un salaire, peut parfaitement subvenir à ses besoins, là, on a un risque de requalification en donation par l'administration fiscale qui vient de dire bah, en fait, la mise à disposition à titre gratuit n'était pas nécessaire puisque l'enfant a de quoi payer un loyer, donc je requalifie en donation. De la même manière, il faut savoir que l'enfant n'a pas le droit à des prestations aide au logement. Et puis, cette mise à disposition à titre gratuit, en fait, va permettre à Sarah, en l'occurrence, si elle fait ce choix-là, de pouvoir déduire une pension alimentaire. On considère que cette mise à disposition équivaut à une pension alimentaire versée en nature. Et donc, ça veut dire qu'à l'inverse, là, elle va pouvoir déduire cette pension alimentaire de ses revenus. Je rappelle que pour 2020, notamment, la déduction était limitée à un petit peu plus de 5 900 €. Donc, c'est aussi un des critères à prendre en compte. Après, pour rentrer dans le cadre de cette déduction fiscale, il faut bien évidemment que l'enfant de Sarah ne soit plus rattaché à son foyer fiscal, pour qu'on puisse rentrer dans le mécanisme de la pension alimentaire. Et il faut, bien évidemment, que l'enfant de Sarah ne soit pas dans une situation où il peut subvenir à ses besoins. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on ait, si jamais, par exemple, il percevait un salaire, il faudrait caler la pension alimentaire par rapport au salaire éventuellement qu'il perçoit.
Ça veut dire qu'étudiant, finalement, ça passe le jour où on commence à percevoir un salaire, c'est là où ça se complique.
Alors, même si jamais l'étudiant perçoit un petit salaire, mais du coup qui ne lui permette pas d'avoir pleinement son loyer, on peut très bien avoir la possibilité de déduire encore une partie de cette pension alimentaire. Ce qu'il faut juste, c'est cadrer par rapport à l'aide qui est apportée entre le salaire qui est perçu par l'étudiant et puis la pension alimentaire versée en nature qui est proposée par le parent. Donc après, c'est vrai que entre ces deux solutions, il n'y a pas la bonne et la mauvaise. Ce qu'il faut, c'est analyser la situation du parent et de l'enfant pour déterminer la tranche d'imposition, les charges éventuellement qui peuvent être déduites de cet appartement, le salaire qui est perçu par l'enfant, la situation globale de l'enfant et du parent, pour savoir, donc en fait, il faut prendre son ardoise, poser ses calculs et déterminer si, en termes de flux, c'est plus intéressant d'être dans une location, revenu foncier, déduction des charges, ou une mise à disposition à titre gratuit et déduction d'une pension alimentaire.
Merci Stéphane Absolu, directeur associé chez Pixis Conseil. Tout de suite, une troisième question, un troisième expert.
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
Nouvelle question et nouvelle réponse d'une experte. On accueille Nathalie Cousy-Goussuaz. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Vous êtes notaire à Paris. On est ravis de vous retrouver sur ce plateau.
Moi aussi.
Alors Thibault, on a une question un peu particulière d'une lectrice, Leïla, ouais. Qui vient de perdre son père qui vivait
au Maroc. Tout à fait. Et son papa, il a laissé deux héritiers, donc notre lectrice, Leïla, et son frère. Alors, le patrimoine du papa se composait d'une maison à Rabat et d'un appartement à Montpellier. Alors, là où ça se complique, c'est que du fait du sexe de Leïla, elle a appris qu'elle allait recevoir une part réduite de la maison au Maroc et elle se demande si elle peut obtenir une compensation sur le bien situé en France.
Alors la question de Leïla, elle est extrêmement importante et d'actualité d'ailleurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des questions de ce qu'on appelle de droit international privé. Et en fait, au regard de la loi française, eh bien c'est la loi marocaine qui a vocation à régir la succession, parce que la France, elle est partie au règlement succession du 4 juillet 2012 qui s'applique à la succession du papa de Leïla. Donc concrètement, il faut bien comprendre que le dernier domicile du papa de Leïla étant le Maroc, c'est la loi marocaine qui a vocation à régir la succession, c'est-à-dire à dire qui hérite légalement. Donc effectivement, ce qu'il faut savoir aussi au Maroc, c'est qu'il y a une infériorité successorale à l'égard des femmes, notamment, mais aussi à l'égard de certaines personnes qui n'ont pas la religion requise pour pouvoir hériter, de sorte qu'il y a une discrimination successorale. Donc ça, c'est un fait. Mais ce qui va se passer, c'est que du coup, en France, quand on va régler le bien de Montpellier, normalement, le notaire français va devoir le régler selon la loi marocaine qui prévoit cette infériorité successorale due au sexe de Leïla. Cependant, en fonction des critères de droit international privé d'ordre public français, on va considérer que ces pratiques sont discriminatoires et Montpellier va être divisé par moitié entre Leïla et son frère. En revanche, malheureusement, on ne pourra pas rectifier l'infériorité successorale qui s'est produite au Maroc. Ça, c'est en l'état de notre code. Sauf que, très récemment, à l'occasion de la loi du 24 août 2021, il y a un article de notre code civil, l'article 913 du code civil, pour être précis, qui s'est enrichi d'un nouveau paragraphe. Et qu'est-ce qu'il vient dire ? Il vient dire que si un héritier qui était ressortissant de l'État européen, ou si le défunt habitait en Europe au jour du décès et que la succession qui s'applique crée une discrimination et porte atteinte à ce qu'on appelle la réserve. Je ne sais pas si tout le monde suit. La réserve en France, c'est la partie de l'héritage qui est automatiquement dévolue à l'un des héritiers. Mmh. Ok ? Eh bien, l'héritier discriminé ou l'héritier qui n'aura pas eu sa part de réserve au regard des règles successorales du pays en raison de son sexe, en raison de sa religion, eh bien, il pourra compenser sur les biens en France. Sauf que là, l'EILA, ça ne s'appliquerait pas non plus à l'EILA. Déjà, ça s'applique pour les décès à partir du 1er novembre, d'une part. Et en plus, par rapport à la réserve de l'EILA, comme le frère au Maroc a le double d'elle, eh bien, si le défunt avait fait un testament en France, c'est ce que ça aurait donné aussi. En France, on peut déshériter ses enfants dans une certaine partie et le défunt, il aurait pu faire un testament en léguant 2/3 à son fils et 1/3 à l'EILA. Ce qui veut dire que ce qui s'est passé au Maroc, ce n'est pas complètement fou par rapport aux règles françaises. Mmh. Du coup, elle n'est pas privée de sa réserve. Donc, même si cet article avait vocation à intervenir parce que le papa était décédé après le 1er novembre, eh bien, ça ne s'appliquerait pas plus parce qu'au regard des règles françaises, elle a quand même sa part de réserve qui, lorsqu'il y a 2 enfants, est 1/3 de la succession. C'est vrai que c'est assez complexe. C'est des règles c'est qu'on complexe. Appelle de droit international privé. Vous savez, c'est ce que disait Pascal. Hein. C'est la vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Eh bien, le droit, eh bien, il est différent d'un pays à l'autre. Alors, en Europe, on a des conventions qui font qu'on sait quelle loi adopter, mais là, le Maghreb, il n'est pas en Europe. Du coup, c'est leur loi spécifique, hein, comme ça serait une loi anglo-saxonne, une loi américaine. Et donc, il faut savoir que, comme la personne, le papa de Leïla, est décédé au Maroc, bah, c'est la loi marocaine qui s'applique, ok. Mais en France, il y a quand même des principes d'ordre public qui vont faire qu'on ne va pas discriminer Leïla.
C'est très clair. C'est vrai qu'on a vu à l'occasion d'une actualité récente, décès d'un chanteur célèbre, droit international,
oui,
États-Unis,
sûr.
France, que c'était des histoires extrêmement compliquées
bien sûr.
Entre les différents pays.
Tout
pas
à fait.
Évident d'harmoniser
et,
tout ça.
Et il faut pas toujours. Effectivement, c'est très bien cette loi qui permet de rétablir les réserves. On parlait beaucoup à un moment de la disparition de la réserve, justement avec l'affaire Johnny, notamment, qui a mis ça en plein feu d'actualité. On se disait, mais est-ce que la réserve est morte ? Bah, avec ce nouvel alinéa. On va justement, on la fait revivre un peu parce qu'on dit bah dans les pays où l'enfant n'a pas droit à sa part de réserve, eh ben sur les biens en France, on va la rétablir. Alors c'est pas facile, les notaires vont avoir beaucoup de boulot pour aller se renseigner dans les pays sur la consistance des biens, mais c'est quand même une avancée importante en faveur de la réserve héréditaire.
Merci maître Nathalie Cozigou-Suas, notaire à Paris. Merci Thibault Lamy, journaliste spécialiste de placement de Capital. Cette émission se termine, on se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne.
Retrouvez le Grand Rendez-vous de l'Épargne en podcast sur Radio Patrimoine et en vidéo sur capital.fr.